L'Opus Festival depuis l'hôtel Le Maréchal, 29e édition, du 5 au 14 juillet, hommage à Michel Plasson. Eh bien, c'est sur Accent 4, c'est maintenant générique.
L'Opus Festival de Colmar, une émission d'Accent 4 en partenariat avec le Festival de musique de Colmar et avec le soutien du CIC Est et d'Arpège Armand Meyer.
Bonjour à toutes et à tous et merci de recevoir chez vous ce nouveau numéro de l'Opus Festival de Colmar. Nous sommes donc le dimanche 9 juillet et dans quelques minutes à 18h15 à la chapelle Saint-Pierre aura lieu le concert du Grand Chœur, maître de chant choral de Moscou, et à 21h Vladimir Spivakov retrouvera les musiciens de son Orchestre National Philharmonique de Russie dans un programme entièrement dédié à Serge Rachmaninov, soliste invité Alexander Romanovski. J'ai le plaisir d'accueillir à ce micro d'Accent 4 Alain Lanceron, président directeur général de Warner France et des Râteaux. Vous êtes aussi l'ami de Michel Plasson. Et Christophe Gristy, directeur général de l'Opéra de Toulouse, qui a aussi connu, bien connu Michel Plasson. Avec mes deux invités, on va donc parler très largement de Michel Plasson, de son intérêt pour la musique française, mais pour l'instant, et comme de tradition, musique.
Vous avez probablement reconnu l'entracte numéro 3 de Carmen de Georges Bizet, un enregistrement réalisé à la Halle au Grain de Toulouse en juin et juillet 1992. Bonjour Alain Lanceron.
Bonjour.
Alain, est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Michel Plasson ?
Ça devait être en... Moi, j'étais nommé directeur du classique chez EMI à l'époque, en novembre 78, donc ça devait être en novembre 78. J'avais dû le voir, évidemment, plusieurs fois à l'Opéra à Toulouse et en concert avant, mais je ne pense pas que je le connaissais personnellement. Et voilà. Et c'est vrai qu'on a entamé une collaboration de plus de 30 ans. Et à chaque fois, avec un bonheur absolu d'aller à Toulouse. Quand je pense à tous les enregistrements qu'on a fait à Toulouse, c'est un souvenir extrêmement positif, vivace et formidable pour moi, parce que chaque fois c'était une expérience nouvelle et il allait se passer quelque chose. Et on sentait, il y avait de l'électricité dans l'air et c'était grâce à son énergie débordante, son enthousiasme et aussi sa discipline et sa quête du style français et du son français, c'était chaque fois un bonheur, voilà.
Et de ces conditions de travail, de cette relation professionnelle, est née une belle amitié qui perdure toujours.
Ah oui, absolument, absolument. Je vois toujours Michel Passion très régulièrement, c'est toujours un grand bonheur de le retrouver. Et surtout, hier soir, de l'entendre dans la Damnation de Faust, puisque suite à ses problèmes de santé, il avait un petit peu décroché, et de le revoir au pupitre, heureux, parce que Michel n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il dirige.
Je crois qu'on s'en est aperçu effectivement hier soir. Christophe, et vous, cette relation avec Michel Plasson ?
Moi, j'ai évidemment rencontré Michel Plasson quand je suis arrivé au Théâtre du Capitole en 1994, je crois. Oui. Et je n'ai pas travaillé directement. Il était très, très présent puisqu'il dirigeait chaque année plusieurs productions au Théâtre du Capitole, ce qui pour moi ce sont des souvenirs vraiment extraordinaires, dont cette Carmen, dont le son est gravé vraiment dans ma mémoire, mais vraiment dans le corps, parce que c'était d'une sensualité incroyable ce qu'il arrivait à tirer de l'orchestre. Et donc voilà, donc je l'ai beaucoup vu, beaucoup vu au théâtre. À l'époque, maintenant que c'est de l'histoire, on peut vraiment en parler. Je lui ai peu parlé puisque il y avait une grande tension à ce moment-là entre Michel Plasson et la direction du théâtre du Capitole. Donc c'était très difficile de parler, mais j'ai un souvenir, je l'ai fait ensuite, mais il y a des souvenirs musicaux et des concerts à Lograin, etc. Et puis des enregistrements. Je me souviens que je m'étais glissé en arrivant à Toulouse dans l'enregistrement du Requiem de Verdi. Mmh. À la Dalbad avec Julia Varadi, ça c'est un souvenir aussi extraordinaire. Le Liberame, les séances d'enregistrement du Liberame de Varadi avec Plasson, c'était...
On avait peur qu'elle annule, parce qu'elle annule beaucoup Julia Varadi, et puis miraculeusement, on l'a vu arriver à Toulouse, donc tout le monde était heureux de la voir, et c'était, bon, c'est une des plus grandes cantatrices de ces 50 dernières années, et c'était un bonheur de la voir, parce qu'avec ce style verdien qu'elle avait, c'est une chanteuse exceptionnelle, et elle avait porté ce Requiem de Verdi avec Michel d'une manière extraordinaire.
Ce qui est aussi important chez Michel Plasson, c'est la fidélité. Je crois que c'est peut-être en raison de cette fidélité qu'il a su s'entourer de chanteurs exceptionnels et qui ont eu des carrières internationales. On pourrait citer Régine Crespin, Jeanne Rhode, Roberto Alagna, Nathalie Dessay et bien d'autres.
Oui, bien sûr. Ben Michel, ce n'est pas quelqu'un qui donne facilement sa confiance. Et je dirais même qu'au début, quand on ne le connaît pas, ça passe toujours par un certain affrontement. Il teste un peu les gens comme ça. Et il a besoin de ne pas les aimer pour les aimer au départ. Mais quand une fois qu'il a donné sa confiance et son amitié, c'est indéfectible et inconditionnel.
Christophe,
oui, c'est
partagez.
Vrai, c'est vrai. Humainement, c'est quelqu'un en effet de pas évident au premier abord, mais d'une grande richesse. Ça, c'est et d'une grande tendresse.
Oui, absolument.
C'est magnifique. Ce qu'on peut dire au sujet de ces amitiés musicales, parce qu'on a toujours l'idée de Plasson franco-français, etc. Mais par exemple, si on regarde avec quel chanteur il a travaillé et avec quel chanteur il a essayé. Et c'est donc cette quête du style français dont on parle, il y a autant de chanteurs non français que de français. Il faisait la même recherche avec Thomas Sampson qu'avec Van Damme.
Il faut dire que tous les chanteurs internationaux qui sont venus à Toulouse pour des enregistrements l'ont tous adoré. Je ne connais pas un chanteur qui n'ait pas adoré Michel Plasson. Thomas Sampson, je me souviens, la première chose qu'il a fait, c'était le Faust. Après, il a fait Hérodiade, il a fait Le Rime du Rufflé, il a fait plusieurs choses. Mais le Faust, il était absolument sous le charme de Michel. Et pareil avec Cheryl Studer, pareil évidemment avec Teresa Berganza, avec enfin, tout, Alfredo Kraus, tous les chanteurs. Je crois qu'en fait, tous les grands chanteurs de l'époque sont passés par Toulouse pour des enregistrements, à part peut-être Domingo et Pavarotti. Mais Pavarotti, bon, pour l'opéra français, n'était pas son fort. Mais donc, on peut dire à part Domingo, je crois que tous les grands chanteurs de l'époque sont passés par Toulouse.
Et le son plaçon, alors ? Alain, comment vous pourriez définir ce son ?
Ben c'est, le son est quelque chose de très très important pour Michel, parce que d'abord pour retrouver ce son français qui est fait de transparence et d'une délicatesse infinie. Et c'est très, il insiste toujours pour retrouver ce son, et aussi de l'acoustique. L'acoustique pour lui est très très important. Il faut que les musiciens soient placés d'une manière très particulière. Vous avez vu hier soir encore pour la damnation de Faust, c'était pas évident, il a placé les chœurs de côté. Et pour lui, le son, c'est le style. Donc c'est très très important pour lui. Et le son plaçon, c'est vrai qu'il a imprimé un son particulier à son orchestre du Capitole de Toulouse, qui a fait que cet orchestre a représenté le meilleur du style français pendant des années, pendant toutes ces années où il était là. Ce qui n'empêchait pas, et c'est ça qu'il faut dire qui est très important, ce qui n'empêchait pas cet orchestre de briller aussi dans d'autres répertoires. Parce que Michel s'est concentré sur le répertoire français au niveau de ses enregistrements, et c'était un choix délibéré pour avoir un profil, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui compte pour ressortir, c'est d'avoir justement un profil particulier. Et lui a imprimé un profil tout à fait spécial à son orchestre pour ses enregistrements à 95% dédiés au répertoire français.
C'est vrai que par ailleurs, il a dirigé bien d'autres musiques.
Bien sûr.
Il rappelait qu'en 1974, il avait inauguré la Halle au Grain avec un cycle des symphonies de Beethoven. Pour lui, Beethoven est un dieu. Est-ce que Michel Plasson est comme Charles Munch, un musicien de l'instinct et de l'instant?
Ah, tout à fait. Alors là, à 110%, ou comme Gergiev, ce sont des musiciens que, bon, il répète, évidemment, les répétitions sont importantes, mais les répétitions, pour lui, c'est pas ça qui compte beaucoup. Ce qui compte, c'est le concert, le moment avec le public, l'électricité qu'il y a dans l'air, et cette espèce d'immédiat, et se jouer avec son orchestre comme ça, prendre, donner comme ça en permanence. On voit des fois, vous avez vu, il s'arrête de diriger et puis il reprend l'orchestre en main. Et pour lui, ce qui compte, c'est justement, c'est un sensoriel, c'est quelqu'un qui travaille dans l'instant et qui trouve dans l'instant des choses qu'il penserait même pas à chercher aux répétitions, je dirais.
Vous avez vécu cette électricité dans la salle du Capitole ?
Ah oui, vraiment. Et je crois que justement, cet amour de la surprise et du dernier moment fait qu'en plus, à l'opéra, il y avait encore cette dimension. En plus, avec, ouais, les chanteurs, qui, je crois, était quelque chose qui l'excitait beaucoup. Et la façon dont il menait une représentation d'opéra était spectaculaire, en fait, parce que c'était... Alors, il n'y a plus beaucoup de chefs aujourd'hui qui vous donnent cette impression d'avoir passé une soirée incroyable, électrique, parce qu'en effet, la surprise était... c'était jamais des soirées de routine. Je me souviens de Hamlet avec Hampson, justement, et Nathalie Dessay. C'était des soirées incroyables. Et il y avait eu une journée incroyable dans cette série d'Hamlet. Il y avait un deuxième baryton qui était tout jeune à l'époque, qui était en deuxième distribution, qui s'appelait Ludovic Désier. Et un jour, donc, Hampson n'a pas pu chanter, et Désier est monté donc de la deuxième distribution à la première et a fait Hamlet avec Nathalie Dessay. Ce jour-là, je crois que tous ceux qui... parce que Plasson était tellement... Il avait compris qui était Désier, le jeune Désier. Plasson était tellement avec lui, et la journée, la représentation a été tellement électrique, avec aussi de ceux qui étaient ravis de chanter avec ce jeune baryton génial. Et ça, c'est une journée pour moi inoubliable. Et Hampson, ayant entendu ce qu'on avait dit, si j'avais su, je serais parti jouer au golf pour toute la série de représentations. Manifestement, il y a quelqu'un qui fait ça encore mieux que moi.
Bah, peut-être que Ludovic nous écoute, parce qu'il vit...
Il n'est pas loin.
Il n'est pas loin, donc on le salue.
Et en parlant des chanteurs, Michel est adoré par tous les chanteurs, parce qu'en plus, il est d'une sécurité incroyable. C'est-à-dire que s'il y a des décalages, il rattrape ça en 2 secondes. Et ce n'est pas donné à tous les chefs de faire ça à ce point. Oui. Et de donner un tapis, d'une part, tapis sonore incroyable, et de rattraper tous les chanteurs dès qu'il y a le moins de problèmes.
En tout cas, j'ai deux passionnés de Plasson au micro. On continue de parler de Michel Plasson. Michel Plasson dit « J'aime les petites musiques comme Forêt, celles qui osent le demi-mot. J'aime les partitions qui n'ont pas de succès. » Eh bien, voici l'ouverture de Masque et Bergamasque, opus 112 de Gabriel Forêt. Une page que j'adore. L'ouverture Masque et Bergamasque, opus 112 de Gabriel Forêt, l'orchestre du Capitole de Toulouse, Michel Plasson. Alain Lanceron, sur le plan discographique, vos deux noms sont absolument indissociables de cette entreprise qui a été de constituer un legs discographique consacré à la musique française. Qui a eu cette idée dès le départ ?
Ah ben en fait, Michel Plasson était déjà là, moi, quand je suis arrivé. C'est mon prédécesseur qui l'a signé, Peter de Jong. Et donc, il avait fait la Symphonie de Chausson, il avait fait les concertos de Rachmaninoff avec Jean-Philippe Collard. Je crois, de mémoire, il avait fait un disco Neger ou un disco Rick. Et puis, quand je suis arrivé, donc évidemment, j'ai pris contact avec lui et on a tout pensé à... un opéra. Et... Non, il avait enregistré aussi déjà la vie parisienne et Orphée aux enfers. Et donc on avait pensé à un autre opéra, on a pensé à Mireille. Mireille, le titre était dans l'air. Donc on a fait les distributions ensemble. Et après, voilà, après on a fait un Péricole, après on a fait La Belle Hélène avec Jesse Norman, un Péricole avec Berganza. Tout de suite on a fait Padmavati avec Marilyn Hearn. Voilà, on a mis la barre assez haut au niveau des distributions et on s'y est tenu jusqu'au bout.
Et vous avez laissé du temps au temps pour constituer ce
On a laissé du temps au temps. Et c'est vrai que je disais que son amitié n'est pas facile à gagner. Au début, Michel Plasson, je le connaissais, mais bon, le déclic, ça a été longtemps après. Le déclic, ça a été Faust. Le Faust où on était absolument sur les sommets, on était dans un bonheur absolu avec cet enregistrement, avec Cheryl Studer, dont je pense que c'est le meilleur enregistrement. Je l'ai trouvé absolument inouï, plus José Van Damme, Thomas Thompson, il y avait un très bon ténor aussi, qui n'a pas fait une grande carrière après, il s'appelait Richard Leitch, mais qui était magnifique à l'époque. Et puis voilà. Et puis on avait trouvé aussi, pour cet enregistrement, des pages inédites qu'on avait rajoutées en appendice. C'était très intéressant. Et on avait dit, on avait fait une version un peu originale, sans les mauvaises traditions, sans les notes rajoutées. Donc il s'était vraiment passé quelque chose à ce moment-là.
Vous avez même été le directeur artistique de Michel Plasson sur
les pochettes marquées exécutif producteur, ça veut dire que c'est moi qui suis à l'origine du projet, mais non, je lis pas assez bien la musique pour être directeur artistique. J'ai chaque fois des directeurs artistiques très professionnels et excellents qui suivent la partition et qui travaillent avec Michel.
Donc pendant très longtemps,
dans la main
Collard,
le oui, frère de Jean-Philippe. Oui, Collard, entre autres, bien sûr.
Christophe, Michel Plasson, le disque, ça a été aussi pour vous une découverte de pages de musique française oubliées.
Et comment, je veux dire, ce qu'on fait, Michel Plasson et Alain, qui est ici présent, il faut vraiment leur rendre hommage, parce que c'est une entreprise, je ne connais pas beaucoup d'entreprises discographiques aussi précieuses et cohérentes que ce grand cycle français, aussi bien de symphonie que de concerto, que d'opéra, avec les meilleurs, avec un orchestre en effet modelé pour ça, il faut vraiment leur rendre hommage, parce que c'est dans la bibliothèque universelle, c'est une part vraiment importante, hein, de cette musique française du 19e et du 20e siècle. On la connaîtrait beaucoup moins sans cette entreprise, donc vraiment un immense merci.
Ce qui était formidable, il faut dire aussi merci à la ville de Toulouse, parce qu'ils ont mis cet orchestre. C'était facile d'enregistrer avec eux parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est établie et l'orchestre était assez flexible au niveau des périodes d'enregistrement. Souvent, on faisait, quand il y avait des opéras, on faisait précéder, enfin pas souvent, mais des fois, on faisait précéder l'enregistrement d'un concert. On l'avait fait pour Gerker avec Hildegard Bérens, qui n'avait pas fait le concert d'ailleurs, mais on avait fait préparer un concert. On avait fait un concert pour Faust, on avait fait un concert. Voilà. Donc, on était dans d'excellentes conditions en plus à la Halle au Grain, qui était une salle très très intéressante pour l'enregistrement. Et comme je vous dis, rétrospectivement, chaque fois qu'on est à Toulouse, c'était un moment d'exaltation, parce que Michel a une énergie, l'énergie de Michel Plasson, c'est quelque chose d'inouï qui se transmet à tous ses interprètes, et on était chaque fois sur un petit nuage, il faut dire, et puis après on retombait sur terre. Et ça s'entend quelque part, je pense, ça, dans les enregistrements, on sent quand même ce bonheur qu'il y avait à faire de la musique et à enregistrer.
Christophe. Alain, il y avait quand même aussi des colères phénoménales, non ?
Ah oui, oui, ah oui, ça, Michel pouvait se mettre dans des colères par rapport à un artiste, par rapport à son administration, par rapport à ce genre de... Puis souvent, par exemple, avant un enregistrement, par exemple, j'arrivais la veille et on devait se voir pour parler des futurs projets, c'est-à-dire dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et en fait, on passait 95% de la réunion à discuter qui allait être la harpe, parce que la harpiste du Capitole était malade, alors qui allait la remplacer. Et donc, Michel refaisait le monde pour la séance de l'après-midi, le matin.
Vous m'aviez d'ailleurs raconté une anecdote, une répétition avec un chanteur, Christophe. Michel Plasson, qui n'était pas très heureux, loin de là.
Ah non, on a tous connu Michel dans des états difficiles, hein, et s'en prenant au chanteur, mais enfin de manière très directe.
Hein, ou à ses musiciens.
Ou à ses musiciens. Et c'est vrai que là, il y avait un silence de mort dans le théâtre. Ça, vraiment, on était tous terrifiés, parce que ces colères étaient très impressionnantes. Celle de Nicolas Joël, qui mettait en scène la plupart du temps, l'était tout autant. Donc, entre les deux, il y a eu des journées...
Christophe
qui était caché derrière un fauteuil. Mais les deux ensemble, surtout au moment où ils étaient en grande rivalité et où c'était électrique entre eux, ils s'adorent, donc on peut le dire.
Oui, ils se sont réconciliés depuis. Ah, ils ont une énorme estime l'un pour l'autre.
Oui, et puis c'était des querelles d'amoureux en quelque
sorte, exactement,
parce que c'est exactement la même famille.
Exactement.
La même famille de personnes. Mais ces gens-là, on hésitait à entrer dans la salle quand même.
Bien, vous avez parlé de Mireille tout à l'heure, Alain. Mm-hmm. Mireille, c'était le premier opéra présenté par Nicolas Joël lorsqu'il a pris la direction de l'Opéra Bastille. Okay. On va écouter un extrait de Mireille.
Oh,
Extrait de Mireille de Charles Gounod, vous écoutiez la chanson de Magali, La brise douce et parfumée. Mirella Freni et Alain Vanzo, accompagnés par l'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé bien sûr par Michel Plasson. Un enregistrement que l'on peut trouver dans le cadre d'un gros coffret, l'intégralité des enregistrements lyriques de Plasson, comme il existe aussi. Et ça, vous le savez, puisqu'on en parle depuis de très nombreux mois sur l'antenne d'Accent 4, le coffret consacré à la musique symphonique. On va arriver au terme de cet entretien, Christophe et Alain. Parlons rapidement d'un chanteur qui a accompagné IMI et qui a accompagné aussi pendant de très nombreuses années Michel Plasson et bien d'autres.
Oui, c'est José Van Damme, parce que c'est vrai que si le point commun entre toutes ces intégrales d'opéra, je crois que c'est José Van Damme qui est pratiquement dans toutes ces intégrales, ainsi d'ailleurs que d'autres choses comme d'autres œuvres avec chanteurs, pas forcément des opéras. Et c'est vrai que José, c'était chaque fois un bonheur de le retrouver. Miraculeusement, il a été à peu près disponible pour tout ce qu'on voulait qu'il fasse. Et alors, il hésitait toujours. Et puis, il nous donnait toujours 2-3 jours, pas plus. Mais il arrivait hyper préparé avec cette voix de bronze extraordinaire. Et alors il hésitait toujours et puis il vous disait « ça va ». Alors quand il avait dit « ça va », on savait qu'il allait le dire. Et voilà, et chaque fois c'était inouï, son Faust, même des rôles de baryton très aigus où il avait pris de grands risques, comme dans Gerker par exemple, où il était inouï, pas de meuf. Alors chaque fois c'était soit des opéras très connus, soit des raretés. Et je me souviens quand on a fait Hérodiade, il avait hésité entre Hérode et Fanuel, et puis il m'a dit « Ah, c'est à Toulouse, alors je vais faire Fanuel
». Et si Michel Plasson n'avait pas été contraint de quitter le Capitole de Toulouse, vous auriez continué des enregistrements avec lui? Parce qu'il regrettait, il était présent ici mercredi, et il regrettait n'avoir pas enregistré Péléas, Dialogue des Carmélites et un Berlioz.
Oui, bien sûr. Ben, vous savez, je crois que tous les grands artistes, dans leur discographie, il y a un manque. Voilà, c'est comme ça. Bacchier, il n'a pas fait un Scarpia en italien. Et d'autres. Et c'est vrai que. C'est peut-être pas trop tard, d'ailleurs. On fera, mais c'est vrai que, quand je disais le confort d'enregistrer à Toulouse, et, avec son orchestre, c'est vrai qu'aujourd'hui, les orchestres, dans l'économie d'un projet, sont très importants. On ne peut pas monter un spectacle, un enregistrement d'opéra de nulle part avec un orchestre qu'on va choisir à droite ou à gauche. Il faut que ça soit le socle. Et c'est vrai que depuis que Michel n'est plus à Toulouse, c'est plus difficile. On a fait des projets, on a fait un disque avec Rolando Villazone, on a fait un disque même avec son orchestre de Chine, mais voilà, c'est plus compliqué. On a un projet avec Michel, j'espère qu'il va arriver à... qu'on va pouvoir le faire, mais voilà, c'est plus compliqué, c'est vrai.
Bon, en tout cas, vous viendrez nous en parler.
Oui.
Vous étiez présent lors de l'émission que l'on avait consacrée aux Troyens,
oui.
Sous la direction de John Nelson, oui. Enregistrement avec le Philharmonique de Strasbourg. Vous confirmez la date de sortie, mois de novembre?
Oui, fin octobre, je crois, oui. Absolument.
Et tout se passe bien.
4 CD, on va même mettre un cinquième objet dedans, on va mettre un DVD des extraits du concert.
Ah, très bien. Voilà. Bon, on en parlera à nouveau, bien sûr. Voilà. Et il y a d'autres projets avec l'orchestre de Strasbourg. On en parlera
peut-être.
In situ. Voilà. Et autre, on va terminer avec l'événement peut-être discographique de ce premier semestre. C'est le volumineux coffret Cluytens.
Oui, c'est l'intégrale de ce qu'André Cluytens a enregistré pour nous en symphonique et en concerto. Alors, hors opéra, les opéras sont par ailleurs disponibles, donc on les a exclus, mais ça fait quand même un très volumineux coffret qui a un succès dans le monde entier. Les Japonais, par exemple, en raffolent, et je crois qu'on a déjà tout vendu du pressage qu'on avait fait.
Ah bah très bien, c'est une excellente nouvelle pour l'industrie du disque, et on parlera de ce coffret.
Relative nouvelle, bonne nouvelle, voilà. Mais bonne nouvelle quand même.
On en parlera sur l'antenne d'Accent 4 puisque je consacrerai plusieurs émissions à André Cluytens. On l'écoute dans le tombeau de Couperin de Maurice Ravel, une œuvre que Michel Plasson a aussi servi bien souvent. Thank you. un extrait du Tombeau de Couperin de Maurice Ravel, l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, dirigé par André Cluytens, une réédition nouveauté Erato. Merci Alain Lanceron d'être passé à ce micro d'Accent 4, et vous revenez quand vous voulez, vous le savez.
Merci.
Merci Christophe, et merci à toi de nous avoir accompagnés pendant 2 ans.
C'est un grand plaisir.
Puisque maintenant tu vas diriger les forces de l'Opéra du Capitole de Toulouse. Eh bien, l'Opus Festival du 9 juillet, c'est terminé. On se retrouve, bien, non pas demain, mais mardi. Merci à François d'avoir réalisé cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon festival et une belle journée.
L'Opus Festival de Colmar, une émission d'Accent 4 en partenariat avec le Festival de musique de Colmar et avec le soutien du CICEST et d'Arpège Armand Meyer.